Aujourd'hui, je reçois Charlotte Dordor pour son roman « Un furieux silence » publié aux éditions Julliard. Charlotte, dans ce roman tout en secret, en vérité voilée, en rébellion larvée, vous nous entraînez dans des zones d'ombre d'une famille provinciale traditionnelle du Bordelais dans les années 60. Une famille, oui, mais une famille qu'on qualifierait sans doute aujourd'hui de dysfonctionnelle, si vous acceptez la dénomination. Un livre donc sur la famille, mais surtout sur la mémoire, la résurgence des souvenirs, le mensonge aussi, et sur tout ce qu'on cache soigneusement en fait. Alors Charlotte, que se passe-t-il dans ce livre où l'on comprend petit à petit comment un silence peut être aussi furieux ?
Oui, bonjour Estelle Schlegel. Mon idée de départ en fait de ce livre, c'était de montrer comment un secret, comment des non-dits pouvaient blesser une famille par ricochet sur plusieurs générations et comment la clé qui permettrait de déjouer les malédictions familiales pouvait se perdre avec le temps et laisser la vérité enfermée pour toujours et puis pour chacun. Et donc ce livre, c'est l'histoire d'une fratrie. Trois enfants, les enfants Pardieu. Trois enfants différentes dans les années 60, mais au sein d'un même lieu, la Boissonnière, qui est un petit château en marge d'un village. Et donc ce sont trois enfants à l'ombre, et d'un père sévère et d'une mère mutique, en retrait, donc une enfance dans le silence. Père et mère sévères et en retrait, et derrière lesquels se cache un secret à plusieurs niveaux, qui sera révélé au fur et à mesure de la lecture, et dont chaque enfant n'a que partiellement les clés. Et donc leurs trois voix s'entremêlent chapitre après chapitre pour remonter le temps et raconter cette histoire. Leurs trois voix, on a d'abord celle de Paul, c'est le petit dernier, ça a été un enfant fragile et maladif, hein, et puis c'est le seul qui a survécu, qui s'en est sorti. Il parle depuis les années 2010, il est devenu père de famille, il est devenu avocat, on peut se dire qu'il s'en est sorti, en même temps il garde des traces de cette enfance-là. Il est très introverti, il est mal à l'aise avec les autres, il a des tics. Et puis au début de l'histoire, sa fille adolescente traverse une période d'anorexie qui le tétanise et il revient à la Boissonnière, donc cette maison, une maison qu'il a quittée 33 ans plus tôt à la suite d'une dispute, et il retrouve toute l'histoire de son enfance qu'il a passé sa vie à essayer d'oublier. Alors, prend le relais de la voix de Paul, celle de sa sœur Françoise. Elle parle dans le passé, depuis le passé, c'est une petite fille, elle parle depuis l'année 63, c'est une petite fille effacée et aimante qui pose un regard tourmenté et perplexe sur sa famille. Elle sent que quelque chose ne va pas, mais elle n'a pas les mots pour le dire, ni même pour le penser en réalité. Elle trouve pas les mots à poser sur les choses. Et la seule personne auprès de laquelle elle trouve refuge et tendresse, c'est Huguette, une vieille domestique. Qui s'occupe d'elle et qui s'occupe des enfants de manière générale. Et la troisième voix, c'est celle d'Henri, le fils aîné. Alors lui aussi, il parle depuis le passé, mais lui, il le fait depuis la chambre d'un hôpital psychiatrique. Il est jeune adulte au moment où il parle. Il a une voix assez violente, assez écorchée. Et lui, il raconte l'année 58. Donc voilà, ce sont ces trois voix qui vont tourner autour de cette enfance-là dans les années 60, tourner autour de certains événements pour raconter cette histoire et remonter le temps et donner au lecteur des clés qui permettra donc au lecteur de lui reformer le puzzle.
Mais justement, ce qui m'a frappé, c'est cette découverte qu'on a en lisant des clés successives. Moi, pour être franche, je l'ai lu deux fois, votre livre. Ça m'arrive souvent quand je dois interviewer une autrice. La première fois, je l'ai lu un peu comme une enquête, parce qu'effectivement, cette structure chorale à plusieurs voix qui donne des indices, on a l'impression d'une enquête presque policière, alors qu'il n'y a pas d'assassinat encore que bon. Et en fait, c'est passionnant cette structure-là avec les voix disparues qui parlent et qui parlent dans le présent. J'ai trouvé ça, moi, vraiment très intéressant, très émouvant. En fait, on navigue tout le temps entre l'enquête stricto sensu, presque policière, et le roman de Meur à la Mauriac, parce qu'on aborde des sujets de... Et à la Bazin, peut-être aussi.
Un peu pour l'atmosphère, en effet. Après, ce qui est vrai, c'est que moi, je me suis pas mal inspirée du roman policier dans les mécanismes, en effet. C'est-à-dire pas, y a pas de commissaire et il n'y a pas de crime. Néanmoins, dans le roman policier, le lecteur, il en sait toujours moins que les personnages et il est sans cesse en quête de la vérité. Et on peut lui laisser des indices, on peut lui donner des fausses pistes. Donc, il va changer d'avis sur les personnages, sur ce qu'il pense d'un tel ou un tel. Il y a des personnages qui vont passer de la victime au bourreau et inversement. Et puis, parallèlement, alors plus que le roman de Meur, moi, ce qui m'a inspiré aussi pour construire ce récit, c'est même la tragédie qui, elle, a des fonctionnements inversés par rapport au roman policier. C'est-à-dire que dans la tragédie, le lecteur sait toujours davantage que certains personnages, il sait que ça va mal finir pour eux. Il a presque envie de les prévenir, de leur dire « attention, tu vas tomber ». Et en fait, pour finir dans la tragédie, le lecteur ne peut que regarder le personnage tomber. Et ça crée une grande empathie envers les personnages en général. Donc c'est ce double mouvement de roman policier et de tragédie sur lequel j'ai joué pour garder la tension dramatique intacte. Et à ce titre, de Huguette, la vieille domestique dont je parlais au début, elle tient presque le rôle du cœur antique. C'est-à-dire que dès le début, elle dans le prologue, elle parle et elle annonce un malheur final inéluctable. Elle pourrait presque donner les clés au lecteur pour comprendre directement. Alors le lecteur ne peut pas encore comprendre parce qu'il n'est pas passé par ces espèces de tunnels que sont les voix des enfants. Mais il peut finir par recoller lui-même les pièces du puzzle. Et donc elle tient, c'est ce que faisaient les chœurs antiques dans les tragédies grecques, hein, qui annonçaient, qui chantaient le malheur final. Donc voilà, c'est une espèce de clin d'œil à la tragédie, parce que c'est vraiment cette alternance que j'ai voulu travailler.
Je vous remercie pour cet éclairage. Moi, je n'avais pas vu ça. Mais c'est vrai que c'est très intéressant ce que vous dites, et c'est vrai que l'idée du cœur antique du Goethe, avec en plus franc-parler, etc., et souvent dans la tragédie grecque, effectivement, le cœur est là pour effectivement annoncer des drames, mais aussi avoir un franc-parler, ne pas mâcher ses mots.
Exactement.
Il dit des choses comme ça. Exactement. Et de ce côté-là, je trouve que le roman est incroyablement bien mené, parce que moi, j'ai dû revenir au début. Pour comprendre ce que disait Huguette dans le premier chapitre. Je me suis dit, mais bon sang, mais c'est bien sûr.
Ça fait une boucle, en fait.
Mais oui, ça fait une boucle.
Elle dit beaucoup de choses dans ce premier chapitre. Après, c'est vrai que sur le thème choral, il y aurait beaucoup à en dire, parce que, quand je dis le thème choral, la construction, en fait, chorale, polyphonique, comme ça, où chacune des voix, comme dans une fugue en musique,
apporte
un thème,
quelque chose.
Modifie, parce que personne ne dit tout à fait la même chose. Ça permet aussi d'aborder beaucoup de sujets qu'on ne peut pas aborder avec une voix unique, et notamment cet aspect qui me paraît important dans l'enfance, dans une fratrie, c'est que chaque enfant traverse l'enfance de manière unique et singulière, et que on a beau vivre les uns à côté des autres, on a beau être ensemble, on n'a que l'écho de l'enfance de ses frères et sœurs en réalité, hein. Et on aura beau vivre les mêmes choses, on n'aura jamais vécu ni compris tout à fait la même chose quand on est enfant. Et ça me permet d'aborder ça à hauteur d'enfant, le fait de les faire parler tous les uns à la suite des autres, ça permet de montrer, hein, cette espèce de singularité de l'enfance dans une fratrie. Voilà.
Oui, absolument. C'est très sensible à la lecture. Mais ce que je voulais souligner également, c'est que les gens qui ne prennent pas la parole en tant que tels, donc le père, la mère, Béatrice, cet autre personnage, ce ne sont pas les moins présents. On les sent se dessiner sous nos yeux à travers le prisme.
Oui, ce sont des silhouettes. En fait.
Ben, ce sont des silhouettes, voit, mais elles sont de plus en plus précises. Et quand même, c'est des protagonistes essentiels, puisqu'ils sont un peu à la racine des choses. Petit à petit, on les voit se dessiner. Moi, j'ai trouvé ça assez bouleversant au final. On ne leur donne pas la parole, mais ils sont tellement là.
Alors, c'est vrai qu'on les voit à hauteur d'enfant. Hein. C'est pour ça qu'ils ne sont que dessinés. C'est qu'en fait, c'est vraiment le regard des trois enfants. Et que les parents sont particulièrement... Il y a une sorte de distance dans leur être au monde qui fait que les enfants n'en perçoivent que des silhouettes. Après, ça me permet aussi, la façon de dessiner les personnages comme ça, ça me permet d'aborder, en fait, la question centrale sur laquelle je voulais travailler, qui est celui du secret de famille et de la transmission des secrets de famille. Quand il y a un secret de famille, ce qu'on dit en psychanalyse et en psychologie, c'est que il y a quelqu'un à un moment qui vit un drame, une blessure, et qui n'est pas forcément grave, mais les conséquences du fait qu'elle se taise peuvent, elles, être dramatiques. Et donc cette personne va être blessée et va décider, ou ne pas décider d'ailleurs, de ne pas parler. Mais disons qu'elle ne peut pas ou ne veut pas parler. Elle va jeter un voile sur cette blessure, mais la blessure va continuer à transpirer malgré elle, en fait. Hein. Et donc, les enfants, puisqu'en général, ce sont les premiers spectateurs de ça, ils vont percevoir un comportement étrange, ils vont percevoir des signes de ce secret, mais sans avoir le mode d'emploi, puisqu'on leur parle pas. Et ils vont développer des troubles à leur tour, et c'est le cas de la fratrie, hein, de mon livre. Ils vont développer des troubles qui peuvent être des troubles alimentaires, des troubles de l'apprentissage, des troubles plus violents aussi, des troubles du mensonge, aussi un rapport à la honte, à la culpabilité, parce qu'un enfant, quand il sent qu'il y a quelque chose qui va pas et qu'on lui dit pas, c'est pas de ta faute, Il va commencer par penser que c'est de sa faute. Donc, ils vont développer toute une série de troubles. Et on peut imaginer aussi que, à la génération suivante, ces troubles seront suivis d'autres troubles encore, puisqu'il y aura toujours ce sceau du secret sur cette malédiction initiale. Et que malheureusement, en plus, quand la vérité n'est pas spécialement thérapeutique, une fois qu'elle émerge, malheureusement, ça ne permet pas forcément de guérir tous ces troubles qui sont apparus comme par ricochet. Et c'est compliqué quand on construit un roman sur cette question-là, parce que l'écueil, il faut garder un univers vraisemblable. Or, une famille qui est frappée par un secret comme ça, encore une fois, ça ne dépend pas spécialement de la gravité du fait initial, mais plutôt du secret qu'on y pose. Et du sceau de l'interdit qu'on y pose. Et une famille qui est frappée du secret comme ça, c'est une famille qui va très mal. C'est une famille qui est ravagée à tous les étages. Et donc c'est difficile de construire un roman sur cette question parce que voilà, il faut garder un témoignage, il faut garder l'idée que c'est un monde crédible. Donc c'est difficile, voilà, de garder l'équilibre entre le drame et la crédibilité.
Oui, j'imagine bien que ça a été un roman difficile à mener. C'est quelque chose que je me suis dit en le lisant la deuxième fois surtout. Et d'ailleurs, à propos de la deuxième fois, parce que en lisant la première fois, j'ai fini par comprendre à la fin le dénouement. Et je n'avais pas compris au début, je m'étais trompée de protagoniste. Mais la deuxième fois, je savais. Donc, en le relisant, j'ai relevé les petits indices que vous essayez d'apporter pour structurer justement cette histoire et de la mener jusqu'au bout, parce qu'effectivement, c'est très compliqué. Et effectivement, ce que vous dites, c'est que le secret, on va le dévoiler, mais il n'y a pas de guérison, quoi. C'est consentir comme on peut, au final. Il y a un autre thème que j'aimerais bien qu'on aborde, c'est que votre roman propose un tableau des années 60, on peut l'imaginer, celui d'une bourgeoisie étriquée où l'homme est dominant, qui règne en maître sur tout le monde. Mais il aborde aussi le thème de la différence de classe à la campagne, entre propriétaires terriens, métayers, sont deux mondes de méfiance, de défiance, même de suspicion, qui ne se mélangent au fond dans votre roman que par la grâce de la jeunesse de certains personnages, avec ce pont sur la rivière que moi j'ai vu comme un symbole de quelque chose qu'on doit franchir, d'une véritable plafond de verre en fait qu'on doit franchir pour aller vers l'autre monde. Traverser la Vézère, c'est l'interdit de départ dans le roman, les enfants n'ont pas le droit, mais en même temps quelqu'un pète ce truc là il va, et ça fait un beau symbole, ce pont finalement entre les mondes. Et je pense que vous avez vraiment tenté avec succès d'ailleurs d'explorer ce monde, ces deux mondes qui ne communiquaient pas.
Oui, alors il y a beaucoup de choses dans ce que vous dites, parce que c'est vrai que c'est en fait, cette propriété, hein, qui est donc une propriété agricole, elle va représenter des choses assez différentes pour les enfants de la fratrie. Paul, le petit dernier, il sera assez indifférent. Françoise, elle éprouvera de la répulsion pour le lieu et pour ses habitants. En revanche, Henri, ce sera en effet une brèche dans son univers clos. Hein. Passer le pont, pour lui, c'est atteindre le paradis perdu. Je dis perdu parce que ça va pas très bien finir, mais disons que ce sera le seul endroit où il connaîtra ses moments de bonheur, en fait, dans son enfance. Donc oui, c'est important pour moi, ce pont, ce passage. C'est drôle que vous parliez de plafond de verre, parce que c'est plutôt la classe aisée qui s'enfuit de sa propre classe pour aller chez les métayers, et non pas l'inverse. Mais c'est vrai qu'il fuit le malheur, mais on a une espèce de transfuge de classe dans l'autre sens, en fait. Parce que c'est vrai que c'est un monde qui a des possibilités d'être plus heureux dans le roman. Ils n'y arriveront pas non plus, mais ils ont des possibilités de l'être. Quant à la violence sociale, alors oui, elle s'exerce à tous les niveaux. D'abord au sein du noyau intime, familial, puisque c'est aussi les rapports de pouvoir des personnages entre les membres d'une même famille, en fait. Les rapports de classe même dans les membres d'une même famille. Et puis envers les domestiques, il ne faut pas l'oublier, parce que c'était encore une époque où on avait des domestiques et on ne questionnait pas l'idée d'avoir des domestiques. Et c'est une violence d'autant plus sournoise, celle-ci, que c'est une violence qui ne dit pas son nom, notamment parce que Huguette, la vieille domestique, elle est fascinée par son maître, par le père de famille. Elle pense qu'elle lui doit tout, elle est en adoration devant lui, et donc elle va lui passer énormément de choses, et ce sera une des clés du roman. Et puis, comme vous disiez, il y a une sorte de violence sociale aussi du propriétaire terrien sur le paysan, alors qu'il soit salarié, locataire ou métayer, parce qu'il change de statut, mais au fond c'est toujours la même chose. c'est cette violence qui s'exerce sur la paysannerie et qui va un peu siphonner certaines fermes. Hein. La ferme de Sargé, donc c'est qui, où les agriculteurs sont locataires de d'Épardieu, elle subit de la même manière cette violence sociale. Qui ne dit pas toujours son nom parce qu'ils sont parfois un peu redevables aussi. Il y a quand même des liens qui se font entre ces deux familles. Après, on voit aussi que la violence sociale elle est plus globale sur cette ferme et que certes elle a été un peu vidée de sa substance par ses propriétaires, mais c'est aussi une ferme qui dans les années 60 était une ferme à l'activité diversifiée, une ferme vivante et puis qui s'est désertée dans un mouvement plus global qu'on a vécu dans quasiment toute l'Europe. Hein. Mmh. L'agriculteur qui s'endette, qui est livré à l'agro-industrie, et puis qui se retrouve à faire de l'élevage intensif de bêtes, alors qu'on a un exemple dans le livre d'un personnage qui aimait beaucoup les bêtes, hein, qui ne fait plus à la fin que des veaux pour la viande dans des conditions épouvantables.
Plus ou moins malade.
Donc voilà, c'est la mécanisation, l'intensification, et puis la dégradation de toute une partie de la population. Le fait que la précarité financière prenne une place comme ça dans ces fermes, donc c'est quelque chose qui va effectivement partir des années 60 et de cette situation de dépendance en fait, et puis qui va être beaucoup plus large à la fin.
On va s'acheminer malheureusement vers la fin de notre conversation, je le regrette parce qu'il y a tellement de choses à dire sur votre roman. Donc je vais terminer en soulignant que, comme d'habitude dans votre œuvre, et même pour évoquer les thèmes les plus obscurs, votre écriture est précise et lumineuse. Et je me suis dit qu'il ne fallait pas moins de la lumière que vous portez vous-même pour éclairer les chemins souvent tortueux de vos personnages. Maintenant, j'ai lu vos deux romans chacun deux fois. Je commence à être habituée à l'écriture que vous portez et que je trouve chaque fois différente, évidemment très très différente, mais en même temps qui porte cette lumière intérieure, cette énergie, je dirais. C'est une énergie lumineuse et bien que dans ce roman il y ait beaucoup d'obscurité, vous portez cette lumière. Donc pour cela, je vous remercie, Charlotte Dordor.
C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup pour votre lecture et votre regard.
C'est très gentil. Je rappelle le titre de votre livre, Un furieux silence, et c'est publié aux éditions Julliard. Je vous remercie.
Merci, au revoir Estelle.
Au revoir.